Françoise Nissens, qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de votre passage au ministère de la Culture ?
Mais je ne vais pas garder des souvenirs. J'ai mis ce passage à profit pour essayer de porter des convictions et un engagement pour la culture, pour l'accès à la culture. Une de mes plus grandes convictions, c'est que bien sûr, la culture, elle est notre plus grande richesse. Elle est le facteur de lien par excellence et que nous sommes culture dès que nous naissons. Et que donc, pour pouvoir partager cette culture, avoir accès à la culture, il faut que dès le plus jeune âge, on se préoccupe de cet éveil au sensible. On se préoccupe, comme dit Sophie Marinopoulos, de la santé culturelle. Et donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup œuvré pour imaginer ce travail, c'est-à-dire la pratique artistique, les artistes à l'école, l'éducation artistique, la lecture partout. Enfin voilà, donc c'est pas un souvenir. J'espère que ça va marquer et que ça continuera. Langue avait déjà commencé et chaque ministre a essayé. Mais je peux dire que c'était vraiment un des points essentiels, se dire que dans un pays où la culture est reconnue, pour autant, il y a cette question de l'accès à la culture qui est loin d'être satisfaisant. Et on est dans un pays où l'éducation aurait besoin de se nourrir et de donner plus de confiance aux enfants, et cela passe par l'éveil au sensible.
Est-ce que vous avez des regrets de cette période ?
Pas de cette période, j'ai des regrets de ne pas avoir pu plus avancer sur le sujet, parce que ça me paraît absolument fondamental, mais ce n'est pas des avancées très concrètes. Il faut juste s'y mettre, faire en sorte que l'école systématiquement s'ouvre à cela, que l'esprit en général soit ouvert à cette question-là, qu'il y ait la conviction, on l'a bien vu pendant le confinement, tous les modes d'expression de solidarité passaient par une expression culturelle. C'est fondateur. Donc comment se fait-il que le livre n'est pas plus présent, que le roman n'est pas plus présent à l'école, que le théâtre n'est pas plus présent à l'école, que la musique, et pourquoi est-ce que ça reste dans des silos, etc. Je pense que si on veut espérer que ce pays qui est si riche en lieux de culture grâce à des grands ministres, comme on cite toujours Malraux, on cite toujours Lang, et évidemment il y a 16 000 bibliothèques, il y a 1000 lieux de spectacle vivant, il y a 5000 écrans de cinéma, il y a plus de 3000 librairies, enfin il y a des musées, il y a un patrimoine absolument incroyable. Pour autant, il y a une question d'autoriser l'accès et de pouvoir imaginer que plus personne ne dit « ça, c'est pas pour moi ». Donc là, il y a un travail essentiel à faire. Et le seul regret, je dirais d'une certaine façon, que je n'ai pas pu aller plus loin. Je n'avais pas compris qu'il fallait être peut-être plus féroce, plus jouer le jeu d'une communication plus appuyée, plus fonceuse. Moi, j'essaie de travailler, de porter les sujets. Donc, si c'était à refaire, ce que je ne referais jamais, eh bien, j'irais avec, je pense, une espèce de force, voire de férocité pour dire il faut y aller, allons-y, faisons ça. Et voilà, tous les râleurs, tant pis, c'est pas grave, on continue.
Alors vous êtes également éditrice avec Actes Sud. On arrive dans la période des grands prix littéraires. L'année dernière et puis les années précédentes, il y a eu Éric Villard, Nicolas Mathieu. Vous avez quelques noms à nous annoncer ou quelques souhaits? Qu'est-ce que ça représente un prix littéraire pour Actes Sud par exemple?
Mais les prix littéraires ont cette vertu de faire en sorte que c'est un accès à la littérature. C'est vrai que c'est très regardé, c'est très repéré, et c'est une façon d'amener des gens à la lecture qui peut-être n'iraient pas. Pour autant, on ne publie pas pour avoir un prix littéraire. On publie pour faire connaître un auteur auquel on croit, des œuvres dont on pense qu'elles ont une nécessité à être lue, à être diffusée pour qui voudra les lire. Et donc le prix littéraire permet d'éclairer cela. Donc c'est très important pour une maison d'avoir accès à des prix littéraires qui ne soient pas réservés à un petit sérail de gens qui fonctionnent entre eux. Et depuis quelques années, et notamment le Goncourt d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture et on ne peut que s'en féliciter. Je pense que l'ouverture du panorama éditorial en France avec beaucoup plus de maisons d'édition plutôt indépendantes, de petite taille, où une création très vive et très intéressante voit le jour, eh bien, on participait à cela. On ne peut plus ignorer qu'il n'y aurait que les seuls bons livres dans quelques maisons.
Laura Adler, qu'est-ce que ça représente pour vous, le livre ?
Je ne sais pas ce que c'est le livre, hein. Je sais ce que c'est des livres, je sais ce que c'est avoir un livre avec soi. Je sais ce que ça veut dire, la possibilité de pouvoir continuer à lire. Pour moi, ça veut dire continuer à vivre. Et j'ai moi-même une mère qui est devenue aveugle en vieillissant et qui a perdu la capacité de lire. Et j'ai bien vu à quel point c'était quelque chose d'essentiel, de structurant, de vital. Et j'ai essayé de faire comme j'ai pu, c'est-à-dire je suis devenue lectrice des livres qu'aime ma mère. Mais en tout cas, le livre, pour moi, le livre, évidemment, c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament. C'est un texte que je lis tous les matins. Je peux pas me lever. D'ailleurs, je me lève pas. Je lis d'abord un extrait de l'Ancien Testament et après je me lève. Donc je commence mes journées depuis pas mal d'années en lisant le livre, le plus grand livre de l'histoire de l'humanité. Plus je lis, moins je comprends. Mais au contraire, c'est passionnant de se déprendre de toutes les certitudes en lisant et en relisant l'Ancien Testament. Moi, je suis quelqu'un qui a lu assez tard. Au grand désespoir de mes parents, je ne lisais pas. Et je ne conseille pas du tout aux parents d'obliger leurs enfants à lire. J'ai moi-même été parent d'enfants qui n'avaient pas envie de lire. Et je crois qu'il ne faut pas du tout contraindre les enfants et s'affoler parce que les enfants ou les adolescents ne lisent pas. Moi, je faisais partie de ces gens qui ne lisaient pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourtant, c'était la période où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'écran, etc. Ça ne m'intéressait pas de lire. Et puis, c'est passé par l'amour, hein, comme souvent, par le premier petit ami qui m'a offert... Là, ce n'était pas la bibliothèque des parents, vous voyez. C'était un livre que mon premier petit ami m'a offert parce qu'il était amoureux de moi. Et là, j'ai commencé à lire. Et à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté.
Vous avez croisé dans votre carrière de nombreux écrivains, des éditeurs, des artistes, des gens qui vous ont marqué?
Oui, beaucoup. Tous les gens que je rencontre me marquent. Parce que j'ai la chance de faire un métier où d'abord j'ai la capacité d'inviter qui je veux. Donc je vais inviter des gens que j'admire, que j'aime, et avec cette espèce de côté agent secret où je peux m'approcher de gens sous un prétexte professionnel. Donc je suis impressionnée en permanence par les personnes que je rencontre et qui m'accordent leur confiance.
Revenons un petit peu au livre, si vous voulez bien. On est ici au Bleuet, à Bannon. C'est une librairie dans une zone rurale, une librairie ô combien importante. Quel sentiment ça vous inspire?
Mais d'abord, j'ai beaucoup entendu parler des Bleuets parce que j'ai une amie très proche qui vit toute l'année à Bannon et qui m'a dit « je pourrais jamais vivre à Bannon toute l'année s'il n'y avait pas les Bleuets ». Donc les Bleuets, elle me parlait sans arrêt des Bleuets. Je me suis aperçue que c'est pas une librairie, c'est une immense maison, c'est un réservoir de mémoire, c'est un réservoir de voyage, c'est un réservoir de sensations, c'est un réservoir d'émotions. C'est une arche de Noé pour des tas de générations. Il se trouve que une fille de mes amies de Bannon, qui vit à Bannon, elle passe sa vie ici à la librairie. Donc vous voyez, c'est pas seulement un lieu où on vient regarder des livres, acheter des livres, ouvrir des livres. Pour moi, c'est vraiment un lieu de vie, voilà, un lieu de vie incomparable.